présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Entre la lune et moi, ou 10 années de ma vie sublimée, production mise en scène Julien Jean-Pierre. Florent rougit. Il venait de reconnaître son père. Il en fit la remarque à Marc, qui lui dit « Mais non, tu n'as plus de père, puisque tu n'as plus de famille. Nous restons ici. » Le gros monsieur vit Florent, s'avança vers lui. « Tiens, tu te trouves ici, toi ? Ça fait 2 jours que je te recherche. Pourquoi es-tu parti sans rien dire ? Où étais-tu encore ?» Florent rougit. Marc le vit et lui donna un coup de coude à son bras. « Je vois que tu es encore avec ce bon à rien. Quelle bêtise vous faites encore ensemble. Allez, viens, obéis à ton père, partons. »« Non, je ne viens pas avec vous. Je ne vous connais pas. Vous n'êtes pas mon père. Je n'ai pas de père. Je ne suis pas de votre monde. » Espèce de voirien, veux-tu te taire? Tu n'as pas honte de renier ton père qui t'a donné la vie, nourri, éduqué, et tu me renies? N'as-tu pas honte? C'est Marc qui t'a mis ces idées là dans la tête encore. Tu vaux rien, bon à rien. Tu vas quitter ce garçon de suite et venir avec moi. Oui, avec moi, ton père. Fait le geste de prendre Florent. Marc dit à l'oreille de Florent, gifle. Florent rougit, voit le visage de Marc, gifle le monsieur. Marc et Florent se sauvent en courant. Il laissèrent le monsieur debout, paralysé par la surprise. Charles aussi était ahuri par ce qu'il venait de voir. Ils ont couru pendant 10 minutes. Puis Marc dit, nous sommes bêtes de courir. Nous n'avons rien à craindre d'eux, puisqu'ils ne sont pas de notre monde. Ils ne sont rien. Marc, que faisons-nous? Faisons ce que nous avons décidé, prévu, quitter la ville. Longèrent les trottoirs. En regardant les voitures en stationnement, Marc remarqua une magnifique voiture de sport rouge. Il s'approcha de la voiture en faisant signe à Florent de le suivre. La rue était déserte. Marc mit la main sur la portière de la voiture. Miracle, elle s'ouvrit. Il s'assit à l'intérieur de la voiture. Il y fait entrer Florent. Les clés étaient sur le tableau de bord. La voiture démarra. Ils roulèrent pendant des heures. Il faisait nuit lorsqu'ils arrivèrent à la ville de Saint-François. La petite rue là à droite, elle est sombre, tranquille. Arrête-toi et on attendra. Ils attendent 5 minutes. Ils voient arriver dans la rue, au trottoir, un homme, une cinquantaine d'années. L'homme ressemble où était, où est le père de Florent. Au bout d'un moment, l'homme traverse. C'est le moment, dit Marc. Florent baisse les yeux. Marc lui met la main sur l'épaule et Florent met la voiture en route. voiture a démarré. Elle a foncé sur l'homme. Ça s'est passé tellement vite que l'homme n'a pas eu le temps de crier. Il fut renversé à terre. Lorsque la voiture est partie, elle a roulé sur le corps. Marc a une sensation de puissance, de jouissance. Son visage devint terrible. Il était rouge. Il avait des yeux grands ouverts et lumineux. Florent avait l'impression, tout d'un coup, d'avoir des sueurs froides. Il avait peur, il avait envie d'hurler. Pendant une heure, puis Florent s'arrêta en rose campagne. Et il se mit à pleurer. Marc, à ses côtés, raide, regardait droit devant lui. Après un moment, Florent lui dit « Pourquoi m'as-tu fait faire ça ?»« C'est pour que tu puisses ne plus revenir en arrière. Maintenant, tu es à moi. Tu ne peux plus faire partie de leur monde. Ceci est ta première leçon pour t'apprendre à être insensible à leur monde. » Décidèrent, c'est de dormir dans la voiture. Le lendemain matin, ils partirent. Marc prit le volant. Ils arrivaient en fin d'après-midi à Grenoble et allaient garer leur voiture vers la gare. Sortirent de voiture. et décidèrent de marcher un peu. Ils avaient faim et marchaient pendant un long moment. Ils aboutirent à un jardin public où se trouvait une patinoire. Ils avaient toujours faim. Marc dit, cette fois, c'est moi qui vais agir. Tu verras. Il était midi, il faisait chaud. Dans les allées du parc, les passants se faisaient de plus en plus rares. Marc et Florent marchaient dans une allée déserte. Tout d'un coup, un homme d'une trentaine d'années marcha en allant vers eux. Ils arrivèrent vers l'homme et juste où il dépassait, Marc le prit au collet, le plaqua contre un arbre et lui dit « Donne-moi ton argent !» Je te flingue. L'homme, surpris, mais ne perdit pas son sang-froid, lui dit, tuez-moi si vous le voulez, vous n'aurez rien de moi, pas mon argent. Marc fit le geste de mettre la main dans sa poche de revolver. Mais l'homme, il mordit la main. Marc fit, aïe, salaud, tu m'as mordu. Prit la tête de l'homme et la plaqua contre un arbre. Il lui donna des coups à la tête. Le sang jaillit au front. L'homme qui portait des lunettes, qui était en sang, tombèrent à terre. L'homme se met à crier, « À l'assassin ! À l'assassin !» Marc le lâcha. Il partit les mains dans les poches sans se presser. Florent s'était contenté de suivre la scène. L'homme, en voyant plus rien, sans lunettes, le visage plein de sang, il se baissa et tâcha de retrouver ses lunettes. Lorsqu'il les retrouva, Marc et Florent avaient disparu. Ils retournèrent à la gare pour prendre la voiture. Qu'allons-nous faire maintenant ? Demande Florent. Partir d'ici. rentra dans la voiture. Demain, nous pouvons lire dans Dauphiné Libéré, un écrivain a été agressé par ses personnages qui étaient devenus incontrôlables. L'écrivain qui se trouvait à Grenoble pour rendre visite à un de ses amis a été attaqué en plein midi dans le jardin de la patinoire. Il n'a pas porté plainte parce qu'il est l'auteur de ses personnages, mais a décidé de prendre une assurance, car un écrivain est responsable des faits et gestes de ses personnages. Et Florent roulèrent pendant des heures sur des routes de montagne. La beauté du paysage leur firent oublier leur faim et leurs mauvaises aventures. En début de soirée plutôt, ils arrivèrent dans une magnifique vallée où se trouvait un grand lac de montagne. Ils s'arrêtèrent devant un hôtel qui se trouvait au pied du lac. Sortirent de voiture. Et entrèrent dans l'hôtel. Ils demandèrent deux chambres et un repas. Thank you. après, ils décidèrent c'est de faire le tour du lac. Il était 9h du soir, faisait encore jour. Florent lui demandait comment s'appelait cet endroit. Marc lui dit, lac de Montrion. Mais je ne sais pas, ce nom me dit quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. C'est la première fois que je viens ici et j'ai l'impression c'est d'être déjà venu. Je ressens une sensation étrange, comme si mon âme recherchait sa moitié. Quelque chose me pousse vers quelque chose ou quelqu'un. Regarde au bout du chemin ces deux célibataires qui avancent, ces deux vieillards. Je me sens attiré par eux. Marc dit à Florent de l'attendre. Il alla seul se présenter à l'un des deux personnages. L'un des deux personnages s'avança vers Marc. C'était un vieillard d'1m70, plutôt gros, avec une épaisse chevelure blanche. Il dit, que faites-vous ici? C'est au hasard qui m'a conduit ici. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Nous sommes dans un livre sérieux. J'ai pas tout gâché. Et puis, vous y êtes déjà le personnage principal d'un roman. Ça ne vous suffit pas. Il faut que vous cherchiez à prendre le rôle d'un autre. Je ne vous laisserai pas faire, vous savez. N'as-tu pas honte de ne pas vouloir la moitié de ton âme? Non, je n'ai pas une autre moi-même. Tu n'es pas ma moitié. Moi, je ne suis pas un monstre. Puisque tu n'es pas un monstre, moi non plus, puisque je suis ta moitié. Puisque tu es moi, et moi toi. Ensemble. N'as-tu pas honte? N'as-tu pas honte? Te regarde dans quelle turpitude tu te conduis. En plus, tu forces ton compagnon à te suivre. Et toi, avec ton suicide, c'est beau, hein, de se suicider. Surtout lorsqu'on le fait avec son compagnon pour son dernier voyage avec son ami. N'as-tu pas honte de parler de ces choses? C'est sacré. Et puis, c'est une histoire trop sérieuse pour toi. C'est sacré. Je ne veux pas que tu touches à tout ça. Non. Je ne m'en irai pas. Hypocrite. Tu caches bien ton jeu, hein. Tu as été. Et tu es. Moi. Tu n'y peux rien. C'est comme ça. C'est pas parce que, par hasard, on t'a mis dans une histoire. Tu t'es trouvé dans une histoire. Il faut te faire croire, te croire supérieur à moi. Car en ce moment, tu es bien sage, mais il suffit que l'inspiration de l'auteur change et tu verras. Puis moi, je suis pur humain. Je ne ressens rien. Pas de remords de tout ce que j'ai fait. Mais je dors en paix, moi. Mon âme me laisse en paix, tandis que toi, ton crime, ton suicide, te fait passer des nuits blanches. Ton âme n'est pas en paix, Comment oses-tu dire ceci? Comparer mon suicide avec tes méfaits? C'est pour la pureté que j'ai cherché à me suicider. C'est par pureté que tu as forcé ton ami à te suivre? C'est par pureté que tu as mis ta famille dans l'embarras et la peur de te perdre? C'est par pureté que tu t'es marié sans amour? Tais-toi! Tais-toi donc! Tout ce que tu dis est faux. Moi aussi. Je n'ai pas forcé à me suivre. C'est plutôt moi qui l'ai suivi. J'ai toujours eu du remords, de la honte de faire souffrir ma famille. Mais que fallait-il faire? Continuer à vivre? Alors, pour leur faire plaisir? Quant à mon mariage, je ne le voulais pas. Mais on m'a forcé à me marier. Et puis, tout est dit dans le livre. Tu sais pourquoi tu me détestes? C'est parce que moi, j'ai réussi à vivre ce... en communion avec mes idées. Toi, tu n'y es pas arrivé. Parce que pour y arriver, il faut sacrifier sa bonne conduite, son honneur, si tu veux. Mais t'es pas assez fort pour aller au-delà de la morale. C'est pour cette faiblesse que tu m'as renié. Tu n'es pas bon, tu es faible, et la faiblesse te rend aussi laid que moi. Tu crois? Tu te souviens lorsque nous étions réunis? Lorsque je croyais à l'avenir? Je voulais réussir, arriver en haut d'échelle. J'aurais fait n'importe quoi pour cela. Que ce soit avec l'aide de moi, toi, ou de moi, moi. Un seul but dans la vie, monter, toujours monter. Puis un jour, j'ai vu le monde tel qu'il était. Et la vérité m'est apparue. Avec ce besoin de pureté, d'absolu, je t'ai chassé, rogné. Je voulais me sacrifier pour atteindre la perfection. Mais j'avais beau chercher, je ne trouvais rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien de noble, de grand de ce monde. Ma recherche m'a conduit dans un monde de douleur, de peur. J'avais l'impression de me trouver non sur terre, mais en enfer. La mort, la maladie, la haine, la peine, le froid, que la vie était invivable. Les gens passaient leur temps à s'enivrer pour oublier leur peine dans le chaos. J'eus le dégoût de tout ça. Tout ce que je voyais me devenait insupportable. Chaque fois que je voyais un homme souffrir, il me semblait que je prenais sa souffrance et souffrais comme lui. Pour sauver le monde, j'aurais accepté de porter sur mes épaules toutes les souffrances, les misères, comme Jésus, auquel je ne crois pas. Je me suis très vite rendu compte que je ne pouvais rien faire, que personne ne pouvait rien faire. Alors j'ai refusé de vivre dans ce monde de douleur et de médiocrité. Un jour, je raconterai ma descente aux enfers. Tu sais ce que tu es? Un saint martyr laïque. Mais en refusant de vivre, et plus tard, après ton suicide, en te donnant une bonne conduite, tu t'es caché la face et mis un voile entre la vie et toi. Tu veux retourner à vivre d'une façon noble, pure, vraie. Il faut que tu retrouves, retournes aux enfers pour que tu voyes le monde tel qu'il est, sans voile. C'est la seule façon de rester pur. Car la pureté, la vraie pureté, doit être lucide. Mais oui, tu as raison. J'ai besoin de me repurifier. La vie que je mène est trop douce et m'éloigne de la réalité. La pureté se gagne dans la souffrance. Comment ne dois-je pas faire? Comment dois-je faire pour retourner aux enfers? C'est simple. Prends ma place et moi je prendrai la tienne. D'accord. Donne-moi ta main. Regarde-moi dans les yeux. Voilà. Le vieux monsieur s'éloigna et dit entre ses dents, pauvre imbécile, tu t'es bien eu. À moi la vie calme et tranquille, à toi l'enfer. Et puis maintenant, j'ai de quoi payer l'auberge. Regarde. Faut voir si ça passe son portefeuille. Mais je n'ai pas de portefeuille. Il m'a pris mon portefeuille. Jean-Pierre s'approche de Marc et Marc lui dit, il m'a pris mon portefeuille. Marc arriva vers Florent et lui dit, regarde l'imbécile, croyait que j'allais lui laisser son portefeuille. Florent ne comprit rien à cette histoire et puis il avait sommeil. Marc, cette nuit-là, dormit très mal. Des voix venaient du fond de son être, des voix étranges qui venaient des profondeurs de son être. Un grand trou noir, profond, comme le néant. D'où venaient des voix douces, envoûtante. Marc, qui es-tu? Où vas-tu? Te souviens-tu de ce que tu étais? Ce n'est pas en allant dans le néant que tu peux trouver ce que tu cherches. Le mal ne purifie pas le mal. Tu es perdant d'avance. Tu ne peux pas lutter contre ton père. Regarde ce que tu as fait, ce qu'il a fait de son premier enfant. Pourtant, lui, il faisait le bien pour le mal. Non, tu ne peux pas lutter contre lui. Vivre en dehors de lui. Car lui, c'est tout. Le monde, c'est lui. Le mal ne peut rien contre lui, car il est l'amour. Amour, amour, amour. Marc, que fais-tu? Marc, souviens-toi. Marc, il est à toi. Il est en toi, en moi, en nous, de partout, Marc, souviens-toi, Marc, Marc. Une mer bleue, un ciel bleu. Sur cette mer, calme, une barque. Au milieu de la barque, une énorme croix, avec dessus un homme nu, crucifié. Des gouttes de sang coulent de ses plaies. Marc est allongé sous la croix. Il fait chaud, chaud. Très chaud, il a soif, soif. Il se désaltère avec les gouttes de sang qui tombent sur son visage. Marc, qui es-tu? Marc. N'oublie pas qui tu es. Aride, sèche, nue. Il faut monter, monter, monter. Vent empêche d'avancer. Il faut monter, monter. Des nuages de sable qui vous empêchent de voir. Et ce sable brûlant qui se plaque contre vous, contre votre peau. Il faut monter, monter, il fait chaud. Le soleil est brûlant. Il faut monter, monter, monter. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il faut monter, monter. Dans le ciel, un aigle gigantesque passe au-dessus de lui et cherche à se poser sur sa tête. Il essaye de se défendre en lui jetant du sable. Il attaque avec son bec et ses ailes s'envolent. Il n'y voit plus, il n'y voit plus. Les ailes enveloppent Marc. Marc, qui es-tu? Où vas-tu? Marc, Marc. L'aigle l'a enveloppé de ses ailes. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Entre la lune et moi, ou 10 années de ma vie sublimée, production mise en scène, Julien Jean-Pierre.